France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Dois-je préciser combien je suis heureux de recevoir ce matin Fred Mella, des Compagnons de la Chanson. Il a tout partagé de cette aventure, commencée pendant la guerre auprès d'Édith Piaf avant de devenir le soliste du groupe mondialement célèbre. Sa voix de ténor aurait pu le conduire à l'opéra. Fred Mella a préféré les Compagnons. Aujourd'hui, âgé de 94 ans, il est venu avec ses jeunes amis du groupe vocal Les Nouveaux Compagnons. Ils seront à mes côtés dans quelques instants, mais comment ne pas évoquer d'abord celle qui nous a quittés cette semaine et qui savait nous enchanter par son accordéon. Tonnerre de Musette, enregistré par la jeune Yvette Horner en 1954. Enfin, elle avait quand même déjà 32 ans. Et par la suite, elle est devenue, on le sait, une espèce d'icône populaire, un peu kitsch, avec ses costumes Jean-Paul Gaultier et sa maison pleine d'accordéons. Ce qui ne doit pas nous faire oublier qu'elle était d'abord une excellente musicienne, virtuose de l'accordéon, mais aussi du piano. Elle nous en parlera en fin d'émission. J'ai ressorti pour vous quelques extraits de l'interview que j'avais enregistrée avec elle en 2007.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mon invité que j'avais eu également le plaisir d'ailleurs de recevoir ici en 2007 au moment de la sortie de ses mémoires. Les années ont passé, mais il nous fait la joie d'être à nouveau avec nous aujourd'hui, âgé de 94 ans, lui qui est le jumeau de son grand ami Charles Aznavour, ou presque. Et pour nous raconter l'histoire des Compagnons de la Chanson, il est venu avec les jeunes chanteurs des Nouveaux Compagnons, Arnaud Léonard et Hervé Lewandowski. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin monsieur Fred Mella.
Je bois
bois à l'eau fraîche, à l'eau fraîche de tes lèvres. Quand je bois à l'eau claire de tes yeux. J'ai si peur de te perdre, de te perdre, de te perdre. Mon amour que je pense à ces malheureux. À tous ceux que sans âme, sans visage et sans âge, qui n'ont plus une larme pour pleurer. Au soleil qui les brûle, qui les brûle, qui les brûle. Mon amour quand il chante désespéré. J'ai cette eau fraîche de tes lèvres. Mais moi j'ai cette eau claire de tes yeux. Tant et tant que sans elle, que sans elle, que sans elle. Mon amour que sans elle et sans toi je serai comme eux. Comme c'est que sans âme, sans visage et sans âge. Quand il chante désespéré. Mais qu'importe après tout le soleil du Mexique. Est un enfant de cœur à côté de celui qui incendie mon cœur ce soleil fantastique. Et brillera toujours si je t'aime.
Bonjour Fred Mella.
Bonjour.
Je suis heureux de vous avoir avec nous ce matin.
Et c'est gentil.
Je suis heureux aussi de passer cette chanson qu'on écoutait en famille le dimanche quand j'étais petit.
Oui, je vais vous dire, je suis ravi de la réentendre.
C'est vrai ?
Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas entendue.
Qui est-ce qui fait la petite voix au perché, là, qui sanglote un peu dans
c'est
l'aigu ?
Jean-Louis Jaubert.
Jean-Louis Jaubert.
J'ai appris ça au Mexique ou au Brésil, je me souviens.
Il faut dire d'ailleurs, Fred Mella, que vous aimiez bien, avec les compagnons, les numéros de Mexicains. Parce que vous aviez aussi le Mexicain, justement, qui était un de vos grands numéros de scène.
Voilà, il y avait le fait d'abord de faire un petit sketch de ça.
Oui.
Et dans lequel il y avait toujours des éléments comiques. C'était bien, ça marchait bien. Parce qu'à l'alternance dans le spectacle,
oui,
de sérieux, de pas sérieux, de musical, etc.
Mais c'est ça qu'on ne sait pas toujours aujourd'hui, d'ailleurs, Fred Mella, parce que, évidemment, on a tous les disques, les chansons des compagnons, mais c'est que c'était vraiment presque du théâtre musical, vos spectacles.
C'était absolument, c'est ce qu'on faisait. On faisait des choses dans tous les sens,
oui,
aussi bien comiques que dramatiques.
Bien sûr.
Évidemment,
oui,
parce que Piaf nous avait un petit peu orienté de ce côté-là.
Oui, c'est vrai.
On n'avait pas un style vraiment comme Edith ou comme Aznavour. On avait vraiment
toute une gamme,
toutes sortes de spectacles,
oui,
toute une gamme.
Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette chanson qu'on vient d'entendre, elle est très joliment arrangée. Je crois que c'était Jean Broussolle à l'époque.
Jean Broussolle, hein, qui était l'arrangeur maison,
voilà,
avec Calvet.
Avec Calvé,
avec
voilà.
Avec Jean-Pierre,
et ça donne...
qui a fait le marchand de bonheur.
Voilà, et alors l'utilisation des percussions, du saxophone, l'arrangement des voix,
oui,
c'est très très réussi.
On avait ramené des instruments du Mexique, enfin c'était... On cherchait vraiment la couleur.
Et en même temps, quand je réécoute cette chanson, Fred Mella, évidemment, il y avait votre voix à vous, votre merveilleuse voix qui est toujours en avant, parce que les compagnons de la chanson, c'est quand même un soliste qui est vous la plupart du temps. Et je me dis, mais vous n'avez jamais été tenté, vous, de faire une carrière à la Luis Mariano?
Écoutez,
ou à la...
De... je dois vous avouer que j'étais très heureux chez les compagnons.
Oui.
je cherchais les chansons. J'avais la chance d'être copain avec quelques très bons auteurs ou musiciens.
Comme Aznavour,
dont
justement.
On va parler absolument. Sûr, ouais. Et donc, je me sentais très bien.
Très heureux comme ça.
Et j'étais bien traité.
Parce qu'il faut dire que les Compagnons, c'était une organisation très démocratique.
Très, hein, complètement.
Où on votait tout à la majorité.
Complètement. Et chacun avait une responsabilité voilà. devant le groupe. Devant le chef du gouvernement.
Néanmoins, il y avait l'ancienneté aussi qui primait.
Il y avait l'ancienneté qui jouait, bien sûr.
Voilà, donc
il y avait aussi les compétences, je dirais.
Voilà, de chacun. La preuve, c'est que vous étiez chargé des finances.
Voilà.
Voilà, donc vous étiez très compétent.
Pas un très bon financier.
Ah bon, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Je vous avais reçu il y a une dizaine d'années pour la sortie de votre livre, Fred Mella. Et aujourd'hui, vous nous faites vraiment la joie à France Musique d'être là. Vous êtes venu d'ailleurs en compagnie de deux jeunes artistes qui font partie d'un groupe qui s'appelle Les Nouveaux Compagnons. Ouais. On va en parler aussi tout à l'heure. Et je propose, alors avant de revenir aux Compagnons de la chanson, qu'on écoute tout de suite une chanson des Nouveaux Compagnons, une chanson du répertoire de Reventura. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue.
Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. L'amour nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
Il y a des violettes tant qu'on en veut.
Il y a des raisins,
des rouges, des blancs, des bleus.
Les papillons s'en vont par deux.
Et le mille-pattes met ses chaussettes.
Des alouettes font des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête?
L'écho répète des faits joyeux.
Et la radio chante un petit air.
Adieu les parapluies, reste chez eux.
Les caves s'en vont au bal musette.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Et voilà, c'est Fred Mella qui applaudit les Nouveaux Compagnons. Vous les connaissez, Fred Mella ?
Je les ai vus une fois. J'ai trouvé ça merveilleux.
Merci. Voilà, alors merci, on est en compagnie, effectivement, d'Arnaud Léonard, bonjour.
Bonjour.
Et d'Hervé Lewandowski,
bonjour.
Moi, j'ai envie de vous demander, à vous aussi, qu'est-ce que ça vous fait d'être avec Fred Mella ?
Ah bah, faut bien avouer que ça fait bizarre, hein.
ça fait plaisir, ça fait du bien. On a l'impression de voyager.
Oui,
de dans voyager le temps, dans déjà, le temps, que... de voyager dans la musique,
alors,
de voyager dans
vous
le temps.
Vous allez voyager.
Vous aimez Les Compagnons parce que vous avez pris ce nom, c'était une de vos références, j'imagine.
Ah ben, on est parti de là, c'est-à-dire que...
Vous êtes neuf aussi ?
Oui, absolument.
Voilà. Ouais.
Et en matière de groupe vocal de la chanson française, a cappella ou presque exclusivement... C'est Les Compagnons, hein. Ça, il y a. Bah oui.
Même si les références sont nombreuses dans votre disque, au-delà des Compagnons.
Oui.
On vient d'entendre Reventura. Vous aimiez Fred Mella à l'époque, vous, le répertoire de Reventura, les chansons de Reventura et ses collègues.
J'adorais.
C'est vrai.
Bien sûr. C'était un maître.
Oui, bien sûr. Oui.
Ah oui, tout
mais
à
vous
fait.
N'en avez jamais chanté.
On a fait des émissions avec lui.
Oui.
Avec le reste de Reventura. Et quelques-uns de chez nous.
Ah, voilà, donc il y a eu des petits mélanges.
Oui, on a fait un petit mélange.
Hervé Lewandowski, Arnaud Léonard, vous venez aussi, hein, on peut le dire, du monde de la comédie musicale, où vous vous êtes croisés souvent.
Complètement.
Voilà, on peut le dire. Énormément, oui.
Mais vous avez donc décidé tout récemment de monter ce groupe en mélangeant donc le répertoire, au fond, de groupes vocaux, de la chanson française, dans des nouveaux arrangements.
Exactement. Bah, si vous voulez, au hasard des rencontres à travers les différents spectacles, on se connaissait à peu près tous. Hein, oui, on se connaissait tous d'ailleurs. Oui. Et on s'est dit à un moment donné, enfin, moi je me suis dit qu'il n'y a jamais un producteur assez inconscient pour nous engager tous les neuf dans le même projet. Ouais. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait démarrer ça tout seul et puis que peut-être quelqu'un allait nous suivre. Et ça a été le cas. On a beaucoup de chance.
Bon, voilà. Alors le disque vient de sortir. On va en reparler tout à l'heure. Mais je propose, puisqu'on est tous ensemble ici ce matin à France Musique, qu'on commence par faire justement un petit voyage dans le temps des compagnons de la chanson, en commençant dans les lointaines années, juste après la guerre, avec Le Prisonnier de la Tour.
Le prisonnier de la tour s'est tué ce matin.
Grand-mère,
nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains.
Grand-mère,
il m'a semblé que j'avais du chagrin.
Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit. Isabelle, si le roi savait ça.
Le prisonnier de la tour chaque soir m'attendait.
Grand-mère,
nous n'irons plus à la messe jamais. C'est un péché que l'amour et le monde est mal fait.
Grand-mère,
on a tué mon amant que
si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit, Isabelle, si le roi savait ça.
Le prisonnier de la tour n'aura pas de linceul
et rien.
Rien qu'un trou noir où s'engouffre les feuilles. Et moi j'irai chaque jour pleurer sous les tilleuls. Et rien, pas même le roi, n'empêchera monde.
Si le roi savait ça, Isabelle ne pourrait que pleurer avec toi. Car il est une belle qui n'était pas pour un roi, et la belle Isabelle, c'était moi.
Le prisonnier de la tour s'est tué ce matin.
Grand-mère,
il m'a semblé que j'avais du chagrin. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains.
Grand-mère,
pas à la messe demain.
Premier septembre 1948, cet enregistrement du Prisonnier de la Tour. L'époque, Fred Mella ou les compagnons de la chanson chantaient encore a cappella.
Hein. A cappella, complètement.
Voilà, il n'y avait jamais d'instrument à ce moment-là.
Non, c'est venu après pour les sketchs, pour donner un cocotin un peu plus brillant.
Bien sûr. Ouais. Et alors ça, c'est amusant parce que justement, on ne peut pas dire que c'est une chanson très drôle, mais c'est écrit par Francis Blanche.
Francis Blanche, c'est la deuxième chanson qu'avait écrit Francis pour nous.
Oui.
La première... C'est parce qu'on faisait des parodies,
oui.
Et on faisait une parodie de western américain,
oui.
Et ce sont les premières paroles de Francis pour nous.
Voilà. Chanson, d'ailleurs, Le Prisonnier de la Tour, que vous avez enregistrée, que Piaf a enregistrée aussi, mais vous ne l'avez pas faite ensemble, celle-là.
Non, hein. On ne l'a pas faite ensemble.
Voilà. Et on peut préciser aussi, puisqu'on évoquait il y a un instant Jean Broussol, qui a été longtemps l'arrangeur du groupe, qu'à l'époque, c'était Marc Ayrand.
L'arrangeur parolier.
Arrangeur parolier. Aussi. Mais à l'époque, c'était Marc Errant qui faisait tous les arrangements.
Qui nous avait quittés pour épouser Yvette Giraud.
Yvette Giraud, il vous a quitté quelques années plus tard. Voilà, donc ce sont les années
Mon Dieu.
du début des Compagnons. Il faut rappeler, Fred Mella, que vous êtes né en France. Vous êtes reparti en Italie avec votre famille pour le début de votre enfance.
Oui.
Puis vous êtes revenu en France à l'âge de 13 ans. Et vous avez rejoint donc d'abord ce groupe qui s'appelait encore à l'époque les Compagnons de la Musique.
De la Musique.
Voilà, sous l'égide de...
Louis Liébard.
Voilà, Louis Liébard, qui est, on peut dire, quand même un peu le fondateur des Compagnons.
Et c'est drôle parce que je viens de passer à côté de l'église où il a été enterré.
À l'âge de 101 ans.
C'est ça, 101 ans. Personnage incroyable.
C'était un chef de chœur passionné.
Fabuleux, en plus, un sens de la justesse. Excusez-moi, mais alors, vraiment inouï.
Alors, est-ce que c'est lui qui vous a appris, je ne sais plus, c'est une question technique, comment est-ce qu'un groupe de chanteurs, sur une scène, fait pour démarrer tous ensemble, sans avoir une baguette de chef d'orchestre ?
C'est moi qui donnais le départ.
Comment vous faisiez ?
Le souffle.
Avec le souffle, voilà, comme ça.
Je prenais le souffle, et on pouvait être dans n'importe quel coin de la scène, on partait
savait.
Dans le ton.
Dans le ton.
Avec l'harmonie et tout. C'est voilà. Fabuleux. C'est fabuleux.
Alors, malheureusement, donc, Liébard, qui a vraiment fondé le premier groupe, finalement, vous êtes monté à Paris pendant la guerre, vous avez été repéré, notamment par Piaf, et lui, il n'a pas été tellement heureux que vous vous lanciez dans le show business.
C'est vrai. Il voulait qu'on continue avec notre expression, c'est-à-dire
le côté un
des
peu
chansons
scout.
Anciennes.
Oui.
Non, mais le côté... Car on chantait du classique également, du Beethoven, on chantait
des... Et des chansons traditionnelles aussi.
Absolument, voilà. Traditionnelles, la vieille chanson des villages.
Voilà, c'est ça. Et donc finalement, vous vous êtes séparés de Liébard, du moins la plupart d'entre vous, pour fonder vraiment les Compagnons de la chanson.
Oui, c'est ça, parce qu'on a eu un petit moment de bagarre avec lui, vous savez, dans une équipe, c'est ça.
Oui,
on
sûr,
discute, on s'engueule, et puis on revient.
Alors, c'est comme ça que les Compagnons ont commencé et que, finalement, Édith Piaf vous a fait entrer vraiment dans le métier.
Mais c'est-à-dire, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, elle est assez fabuleuse. Un soir, nous avons un spectacle à Lyon.
Oui.
On remarque dans les coulisses Louis Seigné.
Oui, oui.
Et Louis Seigné nous explique, on m'a demandé de venir dire des poèmes après vous.
Oui.
Ou avant vous, je me souviens plus. Alors, bon, très bien. Le spectacle se passe, Louis Seigné arrive absolument emballé, et puis quelques jours après, on reçoit une lettre de la Comédie-Française nous demandant si nous voulions, vous rendez compte quel rêve, monter à Paris pour un gala.
Pendant la guerre, hein, encore.
Pendant la guerre, et on monte, il y a la Comédie-Française qui fait un acte du soulier de satin, et on nous demande de chanter une chanson, on chante une chanson, et Piaf chante également une chanson accompagnée déjà par son accordéoniste, qui n'était pas celui qui a fait la suite. Et Edith vient en coulisses et nous dit, écoutez, j'ai trouvé que c'était merveilleux ce que vous faisiez, est-ce que ça vous intéresse de faire une tournée avec moi ? On lui dit, madame, nous sommes programmés pour Strasbourg, puis des petites villes, car on chantait dans les petits villages également. Alors on nous dit, le jour où vous êtes libre, vous me faites signe. Quand on a eu une liberté, Jaubert en a parlé à Piaf, qui a dit, bah, écoutez, je retourne Loulou. Loulou, c'était son impresario.
Ah oui.
Loulou, vous programmez les Compagnons avec moi à Strasbourg.
Et voilà.
Nous sommes partis à Strasbourg pour la première tournée et je me souviens de l'entrée d'Edith qui nous a écoutés répéter. Mais je vais vous avouer une chose, je n'étais pas très amoureux des chansons d'Edith parce que j'avais fait des études d'opéra
mais parce
et
que
je
voilà,
voulais être chanteur d'opéra.
Vous vouliez faire de l'opéra parce que vous étiez au fond un Italien et que par votre père, vous aviez ce goût de l'art lyrique.
Mon père était vraiment un fanatique de l'opéra italien qui connaissait évidemment par cœur, connaissait toutes les partitions, hommes, femmes, orchestre, il connaissait tout, il chantait tout. La maison bruissait de toutes les langues.
Est-ce que c'est Piaf qui a choisi votre premier grand succès, Les Trois Cloches, la chanson de Jean Villard ?
Non, alors là, ça a une petite histoire également. Au cours de cette tournée en Alsace, Edith nous dit un soir, on avait comme première partie Charles Aznavour et Pierre Roche.
Votre grand ami Charles Aznavour.
Mon grand copain Charles. Ouais. Et elle nous dit, écoutez, demain soir, nous sommes libres. Est-ce qu'il y en a que ça amuse de venir avec moi à Lausanne écouter un chanteur qui écrit des choses très poétiques, très belles? On y est allé, nous étions quelques-uns, dont Charles, Jaubert, enfin quelques-uns. Et on va à Lausanne et on écoute Gilles.
De Gilles et Julien.
Gilles et Julien.
Voilà.
Et Gilles chante différentes chansons et Les Trois Cloches. Très bien. Mais on ne fait pas de remarques, on avait beaucoup aimé la chanson. Et le lendemain, Edith, qui venait assister à nos répétitions, je ne me souviens plus de la chanson qu'on était en train de monter, nous dit, écoutez, si vous voulez faire une carrière, nous on ne pensait pas du tout faire une carrière, on pensait à chanter nos petites chansonnettes parce que c'était notre plaisir. Écoutez, je pense qu'il serait bien que vous preniez une chanson d'aujourd'hui, vous l'avez entendu celle d'hier soir, Les Trois Cloches, qu'on avait beaucoup aimé.
Ouais.
Est-ce que ça vous intéresse? Alors on fait...
Bouf.
Oui, d'accord, comme ça on fait off. Ouais, okay. Et bien on dit pour lui faire plaisir, comme elle faisait notre deuxième partie de spectacle, on se dit on va le faire. Marc Héran
l'a arrangé pour les chanteurs.
Il a fait les arrangements, ouais. Il a trouvé l'idée des cloches. Et Edith est venue à la répétition, elle a aimé celle d'y mais. Je pense qu'il manque un petit quelque chose. Est-ce que vous me permettez de faire le refrain? Elle nous demande la permission de faire le refrain. Et ça a été miraculeux parce qu'on l'a essayé, c'est parti comme ça. C'est parti, mais alors énorme.
On va pas aujourd'hui réécouter Les Trois Cloches parce qu'on l'a passé souvent ici, mais par contre on va retrouver tout de suite Edith Piaf justement qui évoque sa rencontre avec les compagnons de la chanson.
J'ai connu les compagnons, c'est-à-dire je les ai vus la première fois dans un gala à la Comédie Française. Et il y avait eu Alerte, et pendant l'Alerte, eh bien, ils ont chanté une ou deux chansons. Et j'ai essayé de connaître le chef des compagnons, c'est-à-dire Jean-Louis Jaubert. Nous nous sommes vus comme ça, amicalement. Ils sont venus un jour gentiment chez moi, ils m'ont chanté des tas de chansons. Et vraiment, j'envisageais de travailler avec eux. Seulement, à ce moment-là, ils avaient quelqu'un qui les dirigeait. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils les voyaient pour chanter pour les Boy Scouts, enfin, je sais pas. Ils étaient mal partis. Et puis, lors d'une tournée en Allemagne, après l'occupation, j'avais dans mon programme, en première partie, les compagnons de la chanson. Et j'ai demandé à ce moment-là à Jean-Louis si ça lui ferait plaisir qu'on ne se quitte plus, que vraiment on fasse un programme. Je crois que toute la bande a acquiescé. Et nous avons commencé des tournées. Et tant et si bien que quand j'ai entendu Les Trois Cloches, je leur ai montré Les Trois Cloches et ils ne se voyaient pas en train de chanter Les Trois Cloches. Alors pour les convaincre, j'ai dit, ben je vais chanter avec vous. Ce qui fait qu'en fin de première partie, je venais chanter Les Trois Cloches avec eux. Je veux dire que les premiers temps, les gens étaient un peu surpris et comme on dit dans notre métier, on se tapait plutôt un bide. Je crois que c'était pas très au point à l'époque. Et on s'en ramassait un sévère. Et puis, tout d'un coup, ça a collé, ça a été magnifique. Et les gens, je dois dire que quand enfin, la vie nous a séparés, puisqu'il fallait bien un jour que chacun prenne son chemin.
C'était un fort et beau garçon, aux yeux câlins, aux lèvres dures. Tout en moissonnant, il chantait, et dans sa voix, on entendait toutes les voix de la nature. Il a chanté le clair printemps, les oiseaux, les frais éclatants, les taillis vers les fleurs nouvelles. Le soir, pour les gens rassemblés, il a dit la chanson des blés. Quand la peau courbe les javelles, il a chanté. Les moissonneurs l'ont écouté. Et
Et là, c'était Édith Piaf en duo avec vous.
Elle a été merveilleuse, Fred, parce Mella. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Fred, est-ce que vous voulez chanter le contre-chant ?» Je serais trop fier.
Voilà.
J'ai improvisé.
C'était en 1948, cet enregistrement, ouais, avec l'orchestre de Robert Chauvigny.
Chauvigny.
Un duo, Fred Mella, Édith Piaf. Ouais. Alors, on a entendu dans l'interview d'Édith Piaf à l'instant qu'elle citait à plusieurs reprises votre camarade Jean-Louis Jaubert. Il faut dire qu'il y a eu une petite aventure entre...
Une grosse aventure
entre Édith Piaf et Jaubert. Ouais, hein.
Absolument.
Voilà, ça a duré longtemps.
Ça a duré 2-3 ans, je crois, à peu près. Parce qu'il y a eu les départs aux États-Unis, etc. Alors, ça a duré le temps que ça devait durer avec Édith.
Avec Édith Piaf, c'était parfois pas très long, oui. Enfin, c'est une belle histoire aussi, donc qui évidemment vous a relié pendant toute cette période.
Oui.
Vous êtes partis ensemble à travers le monde, l'Amérique en particulier.
Nous sommes partis ensemble, on ne devait pas partir.
Oui.
Parce que... Il y a le grand impresario américain Clifford Fischer, qui faisait venir les grandes vedettes de France, avait entendu le nom d'Édith Piaf.
Ouais.
Alors, il est venu à New York et on lui a dit « Ah non, si vous voulez m'emmener aux États-Unis, je ne pars que si vous emmenez mes petits copains, les compagnons. » Évidemment, ça faisait beaucoup d'argent parce qu'on avait quand même déjà un régisseur. C'était difficile. Clifford Fischer a refusé le premier départ aux États-Unis. Et quelques temps après, Édith, toujours heureuse, toujours envie de nous faire plaisir, nous dit « Nous partons ensemble pour les États-Unis ». Ça a été fantastique. Alors on est parti dans un théâtre à New York où il y avait, mais alors vous ne pouvez pas imaginer, il y avait tout Hollywood qui avait débarqué, car ils avaient entendu parler de Piaf, pas des compagnons.
Ouais.
Et nous avons fait la première partie, Édith la deuxième, et là il est arrivé une chose épouvantable pour nous, c'est nous qui avons fait le succès, parce qu'ils s'attendaient, la grande vedette française, ils ont vu arriver une femme habillée en noir, avec les deux mains croisées comme ça, comprenaient pas,
ouais.
Alors ça a été quelque chose d'incroyable pour nous, un crève-cœur.
Ouais. Et tout d'un coup,
dont elle s'est rattrapée,
voilà.
D'ailleurs, par la suite, en devenant une énorme vedette aux États-Unis.
Vous vous rappelez, Fred Mella, votre rencontre avec Igor Stravinsky?
Ça, c'est une histoire absolument fantastique. Nous sommes à Hollywood. On nous appelle tout de suite, on part.
Ouais.
Chicago, etc. On part à Hollywood. On arrive là-bas, très bien. Et puis, un soir, le représentant français fait ce qu'on appelle en partie, invite un tas de gens, il invite toujours pareil, le même Hollywood qui venait, mais qui déjà commençait à être au courant. Et à la fin, Édith chante une chanson, et on nous demande de chanter une chanson. Et à la fin de la chanson, chantait soliste, à la fin de la chanson, je vois deux petits bonshommes qui étaient au fond, debout, c'était en plein air, qui nous écoutent chanter. Et qui viennent vers nous, et il y avait tout simplement Chaplin et Stravinsky. Stravinsky qui m'a dit, vous avez une voix fantastique.
Il vous a complimenté, Stravinsky.
Oh, ah, c'est fantastique, fantastique, je me rappelle de ça. Et Chaplin que j'ai retrouvé par la suite, car je suis très ami avec la famille Chaplin. C'est fantastique.
C'est merveilleux.
Il dit qu'il parlait toujours de nous, en Suisse, hein, à la fin de sa vie. Il disait, laissez-moi écouter les compagnons.
Mais alors, quand on voit cette tournée extraordinaire que vous avez faite avec Piaf, on pourrait imaginer que vous vous soyez laissés tous griser par le showbiz. Justement, on a l'impression que vous avez gardé toujours votre côté bon enfant, les neuf compagnons.
Tout à fait, le petit côté, l'équipe, ouais. Car l'équipe comptait beaucoup.
Oui, c'est ça, oui. Alors l'équipe, donc, de neuf, on peut les citer. À ce moment-là, il y a Fred Mella vous-même, votre frère René Mella. Jean Broussol, Guy Bourguignon, Jean-Louis Jaubert, Hubert Lancelot, Jean-Pierre Calvé, Gérard Sabat, voilà. J'ai envie d'écouter, puis je sais que ça fait plaisir aussi à notre réalisatrice Christine Amado, une chanson, là encore, qui a un souvenir d'enfance pour moi que j'aime beaucoup, c'est « Verte campagne ».
Merveilleux.
Vous l'aimez aussi, Fred Mella?
Oh, merveilleux, très belle chanson.
Grand succès.
Ah ouais. Un jour, aux États-Unis, on a entendu cette chanson et on a eu la chance de rencontrer David Tiomkin, qui était un grand compositeur américain, russe d'origine, qui nous a dit, mais je serais heureux si vous chantiez ça. Bon, alors on l'a chanté.
Verte campagne où je suis né, douce compagne de mes jeunes années, la ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, ô mon ami. Verte campagne, que tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface, pour moi rien n'a changé. De bras m'enlace parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi, ô mon ami. Là dans la ville, toutes ses mains tendues m'offrent des fleurs et des fruits inconnus.
Ah, et moi je vais le long des rues perdues, un air de guitare me parle de toi.
Éparpille sa joie, la ville chante, mais je ne l'entends pas. Et moi je rêve de toi, mon ami.
Je voulais simplement vous dire que ça me donne envie de pleurer, de réentendre ces chansons que je n'ai pas chanté depuis longtemps.
Voilà, ça c'était en 1960, cet enregistrement Fred ouais. Mellaz, une très très belle chanson. J'ai envie de demander à nos amis des nouveaux compagnons, Arnaud Léonard, vous qui êtes le fondateur et l'arrangeur du groupe, il y a aussi l'air de rien comme ça, un métier, un travail merveilleux de musique dans une chanson comme ça, l'accompagnement, la couleur, les voix, l'arrangement justement.
Ce qu'on vient d'entendre est extraordinaire.
Si vous me permettez, c'est un travail tout en douceur, avec quand même énormément de travail, mais toujours chercher une grande simplicité.
Voilà,
Arnaud Léonard.
C'est d'une simplicité extraordinaire. Il y a des choses jazz, il y a des choses blues. Voilà, ces styles-là, c'est, oui, les années 30, 40, 50. Là, on est en 1960, 60, vous venez de le lire. Il y a une simplicité de la ligne mélodique qui est absolue. Il y a un soutien léger, très très léger, d'un accompagnement.
Un petit clavecin.
Un petit clavecin, très tranquille. Un unisson, et puis tout à coup, hop, ça éclot. Et ouais. Puis on a une tierce. Et puis on a une quinte inférieure. Et puis une renversée. Et puis il y a un contre-champ qui vient répondre. Ouais. Et la fin, l'accord de fin. Mais ah!
Hervé Lewandowski, oui. Même admiration.
Ah, même admiration. Je trouve qu'il y a un travail sur la justesse. Cet unisson est magnifique. L'unisson est magnifique. Ouais. Unisson à neuf. Il n'y avait pas les machines qu'il y a aujourd'hui, hein, qui font que tout le monde peut chanter maintenant, juste. En tout cas, faire croire. Et là, vraiment, enfin, il y a un travail d'écoute, ouais. De justesse, de culture musicale. Enfin, on a la culture avec.
Il y avait un très gros travail en dehors de la scène.
Bien sûr. Ouais.
Énorme.
Vous répétiez beaucoup?
Beaucoup, énormément. Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours, à 5 heures de l'après-midi, où qu'on se trouve, on se retrouvait.
Et vous-même, alors, vous faisiez des vocalises, des cours de... Parce que vous êtes le soliste, quand même.
Non, mais je faisais très attention à ma voix. D'ailleurs, Edith me disait toujours, couvrez-vous.
Couvrez-vous. Alors, j'ai envie d'évoquer aussi, puisque vous nous faites la joie d'être avec nous, Fred Mella, et que j'adore l'opérette, vous savez, j'ai envie d'évoquer Mini Moustache.
Oh, quelle merde.
Alors, Mini Moustache, ça, c'est en 1956, au Théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, sur une musique du grand Georges Vamparis, hein, des paroles d'André Ornez. Jean Broussol était dans le coup aussi, justement, des compagnons.
C'est-à-dire que cette année, avec Jean Broussol, parce que nous faisions tous les ans une tournée dans tous les États-Unis.
Voilà. C'est l'inspiration américaine.
Ah, hein. C'était fantastique. Nos tournées américaines, c'était extraordinaire. Et évidemment, on est allé dans les pays du western, on a fait tous les États-Unis. On connaît mieux les États-Unis que beaucoup d'Américains. Alors, un jour, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une comédie musicale?
Mais d'inspiration western, hein,
ouais,
il faut dire.
Absolument.
Hein, voilà. Mini Moustache.
Il a raconté l'histoire des gens qui ont été les premiers qui ont apporté le matériel, les chariots, etc.
Ah oui, d'accord, voilà. Donc là, vous étiez tous les neuf sur scène.
Tous les neuf, plus des comédiens.
Plus des comédiens. Il y avait notamment Ginette Baudin.
Il y avait Jean Lefèvre.
Jean Lefèvre. Donc, Mini Moustache, malheureusement, ça n'a pas été le grand succès qu'on espérait.
Non, il y avait une histoire
Je crois que c'est arrivé pendant l'affaire de Suez au Moyen-Orient.
Il y avait des grèves, etc. Ouais.
Bon. Ça reste quand même un joli souvenir pour vous, j'imagine.
J'ai de très beaux souvenirs, des mauvais et des bons.
Mais vous n'avez jamais donné d'autres spectacles genre comédie musicale par la suite avec les compagnons. Hein.
Attendez,
ça a été la seule expérience.
Attendez, je suis en train de chercher... Écoutez, c'est drôle parce que le premier enregistrement, en fait, qu'on a fait avant de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était un disque avec Edith, chez Walt Disney,
oui,
qui s'appelait Alice et Johnny. C'est un dessin animé,
ah oui,
dans lequel, d'ailleurs, avec Edith, nous chantions déjà en duo.
Voilà, ah oui, alors c'était déjà une forme de théâtre
déjà
chanté,
ouais,
qu'on ressortira à l'occasion. Alors, mais je propose qu'on écoute un petit extrait de Mini Moustache, dans lequel vous étiez donc vous les compagnons avec Ginette Baudin et aussi Thérèse Laporte.
Thérèse Laporte, c'est ça.
Voilà.
Une chanteuse québécoise, une des premières qui est venue en France.
Voilà.
Et on avait un duo.
Voilà, ça s'appelle Le Petit Âne Gris.
Le Petit Âne Gris.
Je ne suis pas seule au monde, j'ai le plus doux des amis. Nous nous comprenons et nous nous aimons aussi fort qu'il est permis. Je n'ai plus que lui au monde, il a tout pris dans mon cœur. Et depuis longtemps, nous allons gaiement pour le pire et le meilleur.
Ton ami a bien de la chance que la vie donne une amie aussi jolie.
Mon ami, le vieux compagnon de mon enfance, mon ami, et de pauvre petit âne gris. Quelquefois j'ai de la peine, et quand je pleure en chemin, il a dans ses yeux pleurs si malheureux que j'en oublie mon chagrin. À petit pas, il
chance que la vie lui donne une amie aussi jolie.
Mon ami, le vieux compagnon de mon enfance, mon ami, et le pauvre petit âne gris. Ce n'est que tout petit âne, mais je sais qu'il m'aime bien. Ce n'est que tout petit âne, mais je sais qu'il m'aime bien.
1956, Mini Moustache à la Gaîté Lyrique. Là, c'était donc un duo de la petite chanteuse québécoise avec les Compagnons.
Je dois vous avouer que je ne m'en souvenais plus du tout.
Voilà, mais vous, en tout cas, vous y étiez.
Mais
là, il n'y a pas de doute. Et voilà, c'était aussi l'illustration de ce talent théâtral qui était aussi celui des Compagnons. Il venait comment les sketchs de vos spectacles? Alors, c'était au cours des répétitions, vous essayiez des choses.
On avait un très bon metteur en scène,
oui.
C'est Robert Manuel de la Comédie Française.
Pour Mini Moustache, oui.
Mini Moustache, qui nous a fait travailler un peu. C'était plutôt des plans d'ensemble, c'était très bien fait, très bien camouflé. Alors qu'autant eux sont merveilleux,
les nouveaux
merveilleux comédiens,
oui.
Ce que nous n'étions pas. Alors, on trichait un petit peu.
Oui, mais enfin, vous n'étiez pas des comédiens, mais il y avait tous vos sketchs, les Tourlourous,
oui.
Les Jumelles de la Marine,
oui.
Les Écossais.
Ah, il y avait des sketchs, là, c'était formidable.
C'était votre spécialité
là,
aussi.
Là, on faisait vraiment des choses insensées. Je racontais l'histoire qui se passait dans un port jugé sur un escabeau. J'étais à 4 mètres de hauteur. Je racontais à mes petits copains qui se marraient en voyant ce qui se passait sur la terre. On faisait des choses comme ça.
Voilà, c'était ça aussi, les Compagnons.
Ouais, c'était ça, c'était l'illustration.
Voilà.
À un moment, on a appris à faire des claquettes.
Et vous avez d'ailleurs, au fil du temps, rajouté de plus en plus d'instruments dans
oui,
les spectacles.
Oui, à un moment, on était arrivé, je crois, quelque chose comme 70 instruments.
Voilà, c'est ça. Oui.
On jouait de tous les instruments. On disait, bon, on a besoin de ça, très bien. On va chercher un professeur et on commençait. Alors on jouait de la flûte, on jouait des instruments basques, évidemment des percussions, des xylos, etc. Oui. On était un véritable orchestre.
Les Compagnons, ça a duré jusqu'en 1984,
oui.
Fred Mella. Comment vous avez décidé un jour que, qu'il fallait arrêter et commencer la tournée d'adieu?
On commençait à être trop vieux.
Vous, vraiment?
Non, il était temps de passer la main. Et de...
Vous aviez 60 ans.
On avait, oui, je sais. Et puis, une lassitude aussi,
oui.
Familiale, quelquefois. Alors, il y en a qui ont commencé à traîner un peu, à dire, si on arrêtait un jour, moi, j'aurais continué tout le temps.
Oui, il faut dire qu'entre-temps aussi, il y avait eu la disparition d'un des compagnons, déjà,
voilà.
Qui s'appelait Guy Bourguignon.
Bourguignon.
Qui est mort très tôt, finalement.
Très tôt.
En 1969.
Il est mort très tôt. Ça a été un choc terrible pour nous. Parce qu'on était... Écoutez, évidemment, je sais qu'on le dit souvent, nous étions une famille.
Oui.
C'est ce qu'a dit Edith, d'ailleurs. Et elle avait trouvé avec nous une famille.
Une famille. Puis comme dans une famille aussi, vous arrivez de vous engueuler aussi.
Oh oui. Alors là, et puis c'était sonore.
C'était sonore, mais ça finissait toujours par s'arranger, visiblement.
Ça s'arrangeait, évidemment, parce qu'il y avait le spectacle derrière.
Il faut dire aussi qu'après la disparition donc, de Guy Bourguignon, il y a aussi Jean Broussol qui a pris ses distances assez tôt, en 1972.
Voilà. Jean nous a quittés. Il a eu l'idée d'écrire des chansons avec Sacha Distel.
Il a eu de
très
grands succès, d'ailleurs.
Dont une a été numéro un au monde.
Absolument.
Chantée par Sinatra, etc.
Et d'autres. Et c'est là qu'est arrivé Michel Cassé.
Voilà.
Qui a remplacé Jean Broussard.
Qui lui a amené le côté comique, si vous voulez. Je n'aime pas dire ça simplement comique, mais une présence comique formidable. Il avait une présence extraordinaire.
Et puis, comme toute bonne tournée d'adieu, votre tournée d'adieu, donc dans les années 80, elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu.
Ça a été une part de rigolade de la part de tout le métier, non seulement du métier, mais des spectateurs, parce qu'on disait, ça va, c'est la dernière. On voulait toujours que ce soit la dernière.
Ça a duré 10 ans.
Et puis, ça a duré, c'était... Mon ami Charles a ri là-dessus tant qu'il a pu. C'était incroyable. Mais écoutez, vous êtes venu chez nous et vous ne voulez pas revenir. On ne peut pas, pendant 2 ans, on n'a pas une date. Alors, ça a été comme ça. Mais vous n'allez pas nous faire ça. On vous attend. Ils nous ont obligés à continuer.
Non, on revient.
Alors justement, voilà, on est aussi avec les nouveaux compagnons, Fred Mella. On va revenir tout à l'heure à vos amis Aznavour, Brassens et les autres. Mais si vous voulez, on va retrouver un peu nos amis, les nouveaux compagnons.
Bah, bien
et
sûr.
Un autre extrait de leur disque qui vient de sortir. Et cette fois-ci, nous avons choisi les Playboys.
Hot, c'est chaud, c'est hot, c'est chaud.
Il y a les playboys de profession, habillés par Cardin et chaussés par Carville.
Cardin?
Carville?
Cardin?
Carville?
Ah bah moi j'aime les deux.
Opportuniste.
Qui roule en Ferrari à la plage comme à la ville et qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Très 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 bon chez Fauchon.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Mais tais-toi donc.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac, boum, hul. Les filles, on tombe à mes genoux. Voilà.
Je n'ai pas peur des petits minins qui mangent le ronron au drugstore.
Miaou, 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 miaou.
Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux,
jaloux?
Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout,
du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac, boum, hul. Les filles, on tombe à mes genoux.
Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes.
Je ne crains pas les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes.
Aux yeux d'acier, aux sourires coquets, en Harley Davidson, ils se promènent.
Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille,
un piège tabou,
un joujou extra
qui fait crac, boum, hur.
Les filles, on tombe à mes genoux.
Il y a les drogués, les faux du zen, ceux qui lisent et ceux qui savent parler.
Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la baleine.
Que je sois jaloux, pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum hu. Les filles, on tombe à mes genoux.
Le fameux succès de Lanzmann et Dutronc repris donc par les nouveaux compagnons, neuf chanteurs comme les anciens compagnons. Il faut dire, à l'époque d'ailleurs Fred Mella, des groupes de neuf, vous étiez les premiers à être aussi nombreux. Hein.
Nous avons été les premiers, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de groupes qui ont été clos après.
Parce qu'avant après c'était trois, quatre, deux. Après les compagnons, il y a eu les double six et quelques autres. Et donc vous reprenez la formule du grand groupe vocal, hein, n'est-ce pas Arnaud Léonard?
Attendez, il faut que je vous dise, il y a même eu les frères Jacques qui sont venus nous voir au moment où ils démarraient. Ils voulaient quelques conseils.
Et voilà, oui. Arnaud Léonard, donc neuf chanteurs, un répertoire qui puise pour une part hein, dans les compagnons de la chanson, mais pas seulement, on vient de l'entendre. Voilà.
Mais pas que. Bah, oui. Bah, c'est sûr qu'à l'époque, bah, ils avaient beaucoup de créations, originales. Et puis, c'était pas pareil. Les chansons se partageaient entre plusieurs albums, entre plusieurs artistes. Elles sortaient quelquefois en même temps sur plusieurs albums. Et ça, c'est merveilleux. Donc, du coup, ils se sont jamais limités à leur à un répertoire. Et donc, voilà, on essaie tant bien que mal de prendre cette succession-là et de se dire, ouvrons le champ des possibles. Oui.
Comment vous vous êtes trouvés tous les neuf, vous? Alors, il n'y a pas eu d'Edith Piaf, mais...
On s'est rencontrés au fil de nos petites carrières respectives à chacun. Avec Arnaud, on a partagé la scène sur Le Roi Lion au Théâtre Mogador.
Version française.
Pendant 2 ans.
Et donc du coup, bah évidemment, on est en loge tous les jours, donc on parle, on chante et ah, j'aimerais bien faire un groupe a cappella. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà, tiens, et les choses se font comme ça. Et puis il y a machin aussi qui est sur tel spectacle, ce serait bien. Et ça s'est construit comme ça. C'est vraiment une bande de potes. Il se trouve que c'est 9 potes qui travaillent et qui font pas mal de spectacles et de comédies musicales, mais finalement c'est un hasard
que ça, ce ça soit. C'est vraiment sur des potes. Un principe démocratique comme les compagnons de la chanson.
Non, du tout. Arnaud est un tyran.
Arnaud est le chef. Il y a un chef
je
là.
Il décide de tout et il est ferme.
Non, pas du tout. Mais j'adore ce que fait Arnaud.
Mais ça, tu as raison. Tu auras un album solo. Non, ben oui, oui, ne serait-ce que pour le choix des chansons. Voilà, on se soumet des idées, on se fait des listes, on s'envoie des mails dans tous les sens. Et puis bon, ben voilà, il y a des choses qui sortent. Ah oui, celle-là, tiens, il y a 6 fois le même choix. Bon, ben celle-là, on va la faire, quoi, du coup. Oui.
Alors, c'est qui les 9 nouveaux compagnons, mis à part vous deux, il en reste 7.
Alors, on a Tony Bastian, on a Philippe Davila, on a Alexandre Jérôme Boulard, on a Hervé Lewandowski qui est ici présent, on a Julien Nicolet, David Koenig, Julien Dassin.
Le fils de Joe,
qui est mon ami, et Guillaume Beaujolais, qui est notre basse.
Voilà. Ah, mais voilà. Vous aussi, là, ça va vers le bien. Grave, là. Hein
oui, ça arrive.
pas du tout.
Mais Guillaume va encore plus bas que moi. Il est très fort.
Il y avait une répartition dans les compagnons, Fred Mella. 3 ténors, 3 barytons, 3 basses, hein, c'est ça.
3,
voilà. C'est vous, donc, Arnaud aussi, qui faites les arrangements.
Oui, hein, tout à fait. Voilà. Ouais. Ouais,
ouais. Et ça, c'est un gros travail, évidemment, de transformer des chansons en ensembles vocaux, a cappella ou avec un accompagnement.
Bah oui, quand on part d'une chose où il y a un soliste et des instruments, eh ben, il faut se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut
transformer les instruments avec voilà, les voix, etc.
Avec les voix. Et quelquefois, même les voix ne sont là que pour, entre guillemets, servir d'instrument. C'est-à-dire, là, je veux entendre une guitare. Je veux pas entendre une voix. Bon, oui, voilà des choses un petit peu.
L'imitation vocale des instruments, bien sûr.
Le beatbox aussi à sa place.
Oui. On peut aussi, d'ailleurs, faut préciser, hein, tous les deux, en ce moment, justement, vous êtes encore en scène dans une autre comédie musicale qui s'appelle Chance, qui est une œuvre qui a eu beaucoup de succès depuis le début des années 2000.
Oui, on joue dans Chance depuis le 15 mai.
Ouais, c'est à La Bruyère.
C'est au théâtre La Bruyère à 20h30.
Tout à fait française.
Oui, complètement française, une création 100% française.
Et 100% loufoque. Oui. C'est un bonheur.
Oui, oui. C'est un vrai hommage, une très belle pièce.
Fred Mella, vous les avez rencontrés comment, ces petits jeunes?
C'est mon fils.
C'est votre fils.
C'est Michel qui va parler d'eux.
Tout est de la faute de Michel.
Je l'ai déjà entendu, j'ai été ravi. Et je dois dire, en plus, mon admiration, parce qu'en plus, vous êtes comédien, ce que nous n'étions pas.
Oui.
Alors, on s'arrangeait un petit peu, tandis que vous, c'est merveilleux. La part de comédie est très importante. Mais on n'aurait pas pu le faire, ça.
Bien, écoutez, alors voilà, vous nous avez donné envie, vous aussi, Fred Mella, en parrainant, on peut dire presque, ce jeune groupe de nouveaux compagnons, d'aller vous voir en scène. J'imagine à la rentrée, ça, vous allez peut-être...
Oui, la tournée est en construction.
Préparer une tournée, en attendant pour l'instant d'écouter votre disque. Et puis je vous propose, puisqu'on a encore un peu de temps, de remonter à nouveau un peu le temps, justement jusqu'à vos jeunes années, Fred Mella.
Loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent,
je songe, et c'est là ma chanson, ô temps béni des premières saisons,
mes jeunes années courent dans la montagne, dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs, et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berce à mon cœur,
chantent les souvenirs de ma tendre enfance, chantent tous les beaux jours à jamais ennui.
Et comme les bergers des montagnes de France chantent le ciel léger de mon beau pays. La, la, la.
Je dois vous dire que je n'aime pas beaucoup ma voix au début. Enfin, ça,
ah bon,
c'est une petite voix de jeune, mais
c'est léger.
J'ai eu un très grand bonheur, un immense bonheur, c'est de le chanter en trio avec Charles Aznavour et Charles Trenet.
Vous n'aimez pas votre...
Un bonheur.
Fred Mella, vous n'aimez pas trop votre voix à l'époque, là, en
non,
1949?
Non, je n'aime pas au début. Ah bon, enfin, je la trouve un peu molle. Ça, c'est une question personnelle.
Alors là, ce n'est pas tout à fait d'ailleurs a cappella. Il y a quand même une guitare.
Il y a une guitare. Voilà. Mais je n'aime pas beaucoup au début.
Ah, quand même. Quelle
ça,
belle
ça,
chanson.
C'est une très belle chanson.
Écrite pour vous par Charles Trenet.
Trenet l'a écrite presque devant nous.
Ah bon?
Il est parti de l'idée de mes jeunes années. Ouais. Il est parti de ça. Ah, c'est fantastique.
Mais vous l'aviez rencontré comment, Charles Trenet? Comment
est-ce... Oh, ben c'était un vieil ami, on le connaît depuis le début, Charles.
Ah oui.
Il venait nous voir, il adorait, et on passait des soirées extraordinaires avec lui. Ça a été un miracle, cette chanson.
Ah oui.
Et en plus, il nous a fait un truc, ça c'est un truc de comédien chez Trenet. Il a écrit le couplet en ayant l'air de le composer. Mais je sais qu'il l'avait déjà écrit avant, bien sûr.
Et la montagne, le thème de la montagne, c'était...
Voilà,
c'était...
c'est le thème de la montagne. D'ailleurs, ça s'appelait La Montagne au départ.
La Montagne, voilà, oui. C'est ça. Alors, une des plus belles chansons quand même des Compagnons. Moi, je trouve votre voix merveilleuse, là, hein, vous savez.
Merci,
mais bon.
Vous êtes gentil.
C'était l'occasion aussi, Fred Mella, d'évoquer les amitiés si nombreuses qui ont jalonné votre vie.
Mais
alors,
ça a été la chance de ma vie.
Trenet, on vient de le citer. On pourrait évoquer aussi Georges Brassens, qui a été
Brassens
un compagnon
été un
des
très
compagnons.
Grand ami.
Hein.
J'ai d'ailleurs des photos de Georges, car je suis photographe en plus.
Oui, c'est vrai. Oui, vous avez fait beaucoup de photos, comme votre complice des quatre barbus et quelques autres.
Il y a, tous y a une expo à Montréal.
En ce moment?
Oui.
Ah bon. Georges Brassens, donc on l'a cité, il suivait vos spectacles, il vous aimait, il vous encourageait.
Georges, bien sûr, j'ai passé une semaine chez lui, on voulait acheter une maison en commun.
Ah,
bon,
oui.
Je ne raconte pas tout.
Et Henri Salvador?
Salvador, je l'ai connu quand il est arrivé, mais je ne l'ai plus revu pendant des années.
Des années.
Et en montant l'escalier pour venir au studio, je me suis souvenu, j'ai rencontré Henri quelques jours avant son départ. Et on est tombé dans les bras comme ça, heureux, parce qu'on se connaît tellement.
Des amis plus inattendus aussi, quand on voit ce qu'était la compagnon, c'est Léo Ferré. Pourtant, c'est vraiment très éloigné des compagnons,
J'ai
Ferré.
Très bien connu Léo également, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Et puis, alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant à celui que vous présentez toujours comme votre grand ami depuis vos débuts, c'est Charles Aznavour.
Ah, effectivement. Charles est mon frère.
Oui. Alors, vous l'aviez rencontré au cours de cette tournée où il était encore en duo avec
non,
Roche?
Non, c'est un soir où nous avons écouté Edith, une émission de radio, et on entend deux jeunes chanteurs qui étaient Pierre Roche et Charles Aznavour.
Oui.
Et le lendemain, on dit à Edith, hier soir, c'était formidable, vous aviez deux chanteurs formidables. Elle se retourne et elle dit, C'est Loulou, Loulou Barrier, oui, qui était son impresario, oui, qu'ils avaient mis en première partie. Et nous sommes partis avec eux en tournée.
En tournée.
C'est comme ça que ça s'est fait. Et alors, avec Charles, on est devenu très copain. Allez expliquer le...
L'amitié.
L'amitié, oui, ça, oui, ne s'explique pas. Et Charles, c'est le parrain de ma fille, c'est le, vraiment l'ami de la famille.
L'ami de la vie, quoi.
Ah oui, oui, Charles, ouais, puis c'est avec une fidélité extraordinaire. Il passe à la maison, avec mes petits ennuis, il vient me voir. Il est formidable, il est merveilleux.
Il a écrit d'ailleurs des chansons pour les compagnons.
Énormément de chansons, j'entendais une musique extraordinaire. Charles, sois gentil. Fais-moi la chanson, donne-la-moi. Les comédiens...
Mais oui, mais les comédiens, vous l'avez refusé.
On l'a refusé parce que les chansons, on les choisissait. Il fallait voter. C'est un vote.
Oui.
Je ne sais pas si c'était
non,
pareil.
Non, eux, ils ne votent pas, c'est Arnaud qui décide tout. Pas...
Avec nous, nous ça, on votait. Voilà. Alors, quelquefois, il y avait toujours une majorité d'imbéciles qui disaient non. Et quelques temps après... Alors, Charles, ça a été la honte de ma vie... Parce que Charles vient à la maison quelques jours après avec Johnny.
Ah bon ?
Ah oui, c'est drôle, mais oui, oui.
Johnny Hallyday ?
Oui, Johnny Hallyday, ah oui, venu à la maison. Et il me dit, alors, le vote. Je lui dis, Charles, j'ai honte. Ils ne veulent pas la monter. Il et Charles veut... me dit, eh bien, je vais leur montrer demain dans une autre radio. Et le lendemain, il a chanté la chanson qui est partie. Et quand les compagnons sont venus demander de la chanter, j'ai dit, je ne la chanterai jamais.
Oui, tellement...
Et je n'ai pas tenu parole.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin, si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer, sous les étoiles le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien.
Et voilà le grand succès refusé par les compagnons de la chanson à la majorité, Fred Mella.
Et après, on l'a baladé partout, dans le monde entier.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Il va déjà falloir nous quitter. Je voudrais quand même, c'est un petit peu triste, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer avec vous, Fred Mella, ce matin. La plupart des compagnons ont disparu aujourd'hui. Il reste votre frère.
C'est la vie.
Il reste votre frère René. Ouais, René. Les deux Mella sont les deux survivants du groupe
vrai,
aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà.
Plus de 90 ans.
Plus de 90 ans. Vous pensez souvent à tous les autres
Bien sûr, oui. On est obligé parce qu'il y a toujours ou une personne qui a connu, qui vient nous voir, qui nous parle d'un tel, un tel.
Bien sûr.
Je me souviens de tel endroit. C'est... Il très reste, étonnant.
Il reste aussi Marc Ayrand qui est un des fondateurs du groupe. Oui, voilà, et vous êtes
qui
là.
Qui a été merveilleux d'ailleurs.
Et puis vous-même, il faut dire aussi que vous n'avez pas arrêté après non. Les Compagnons. Vous avez continué d'abord une carrière soliste.
J'ai fait les pays francophones, voilà. Le Canada évidemment.
Parce que le Suisse. Canada, il faut dire, vous êtes très lié familialement au Canada voilà. Par votre épouse.
Hein. Mon épouse est canadienne.
Voilà. Ah. Donc vous êtes presque canadien, presque québécois.
Presque. Mes enfants sont québécois.
Voilà, oui. Voilà. Et donc, vous êtes entouré par cette, ouais. Cette famille aujourd'hui. Maintenant que vous ne chantez plus de fête, peut-être vous chantez un peu tout seul chez vous.
Un petit peu, non, mais j'ai la voix qui est très altérée par mon AVC. Oui. Mais je pense qu'après la rééducation, je rechanterai, ne serait-ce que pour mon plaisir et pour faire concurrence à mon ami Charles Aznavour, qui a exactement le même âge
que
moi.
Vous êtes deux jumeaux, deux amis jumeaux. Pour la vie. C'est merveilleux. Écoutez, en tout cas, vraiment, je suis très, très touché d'avoir passé ce moment avec vous.
Ça me touche beaucoup.
Fred Mella, et avec nos deux nouveaux compagnons auxquels on souhaite très
je
bonne
suis
chance.
Ravi
et nous donc. Et nous donc. Merci infiniment, Fred.
Arnaud Léonard, merci d'avoir été ici. Hervé.
Avec plaisir.
Lewandowski, merci. On vous
avec
retrouvera
plaisir.
Sur scène. On vous retrouve maintenant en disque. Et Fred Mella, ben écoutez, on va vous laisser et en espérant peut-être même reprendre un de ces jours cette conversation parce que c'est toujours une joie de parler
de
avec vous. Et vous
raconte.
Avez tellement de souvenirs. Alors, on va se quitter. Vous avez été, pour moi, je dois dire, avec ces chansons de mon enfance, un vrai marchand de bonheur. Et j'aime beaucoup cette chanson.
C'est une très belle chanson.
Très belle chanson, vous êtes d'accord.
Ah ouais.
Et en plus, il se trouve que les nouveaux compagnons l'ont enregistrée aussi. Donc, on va se quitter
très bien.
Avec le marchand de bonheur.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passez vos vents légers, vos bons vents de l'amour. J'ai les quatre saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter.
Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal, du mal pour et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps. À temps c'est bien normal. Pour aller réparer ce que vous déchirez.
J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter.
Je donne à bon marché de quoi vivre dans tout. Plutôt que d'en pleurer, je ne demande rien pour me dédommager d'avoir sur mon chemin la joie que j'ai donnée.
J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que les chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour.
Le marchand de bonheur, un des grands succès des Compagnons de la chanson dont vous pouvez retrouver les succès relativement facilement en disque. Aujourd'hui, je vous recommande quand même en particulier les Compagnons de la chanson 1946-1958, tout un coffret de deux CD sur leur début qui est paru voici quelques années chez Frémo et Associés. Et on y retrouve évidemment en premier plan la voix de Fred Mella, mon invité, qui a également préfacé le disque des Nouveaux Compagnons. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un CD qui vient de paraître. Mon Tour de France par Yvette Horner, championne du monde de l'accordéon, comme on disait, à l'époque où elle accompagnait le tour qui va bientôt commencer. Voilà une façon d'évoquer encore la chère Yvette qu'on va retrouver tout à l'heure dans un petit morceau d'entretien où elle reviendra notamment sur son amour du piano.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais auparavant, je voudrais attirer votre attention, surtout si vous habitez la région de Tours, sur une production qui va être donnée au Grand Théâtre de Tours par Franck Le Guérinel, que j'avais eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans cette émission. Franck Le Guérinel, c'est un grand baryton et comédien, un modèle du genre pour tous ceux qui aiment l'opéra comique et l'opérette. Et il a monté avec ses élèves du Conservatoire National de Tours une opérette oubliée d'André Messager, La Petite Fonctionnaire. C'est un petit chef-d'œuvre de Messager juste après la Première Guerre mondiale, qui raconte justement l'histoire d'une employée des postes, une œuvre qu'on ne donne plus jamais et qui nous plonge dans ce monde de la comédie musicale des années 20. C'est au Grand Théâtre de Tours, vendredi prochain, le 22. On écoute tout de suite un extrait d'un enregistrement de La Petite Fonctionnaire chanté par Denise Duval en 1955.
De vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Pour vous, je serai complaisante, accueillante, prévenante. Si quelque grâche se fâchait, vite pour calmer sa colère, je mettrais afin de lui plaire mon plus beau sourire au guichet. Dans mon service, je ne suis pas une novice. Se fier à moi pour ce qui touche à mon emploi. Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire en emplissant bien ma fonction. Pour commander une lettre, pour une dépêche à transmettre, pour l'envoi d'un colis postal, pour mettre sous mandat journal, pour un appel téléphonique, pour un mandat télégraphique, pour les express, les imprimés, les reçus, les mots supprimés, pour épargner la longue attente aux amoureux postes restantes, pour les paiements, les versements, les chargements, les renseignements, pour les taxes supplémentaires, échantillons, papiers d'affaires, lettres de deuil ou billets doux, même pour un tabac de sous. Que je sois calme ou bien nerveuse, que je sois lugubre ou joyeuse, qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, qu'on soit en décembre ou juillet, au bon public je suis fidèle, je veux le servir avec zèle, car je désire être avant tout, par-dessus tout et jusqu'au bout. Et le cas n'est pas ordinaire dans notre administration. Une petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction.
Denise Duval dans La Petite Fonctionnaire d'André Messager à redécouvrir le vendredi 22 juin à 20h30 au Grand Théâtre de Tours, dirigé par Gwenolé Ruffet, mise en scène par Franck Le Guérinel. Voilà un coup de chapeau à cette œuvre d'André Messager composée et créée à Mogador en 1921. Pour l'occasion, on écoute un deuxième petit extrait interprété cette fois par Jean Giraudeau.
L'honneur de vous faire part du prochain mariage du vicomte Semblin, Edgar, seigneur de haut lignage, dont les aïeux au Moyen-Âge se sont fait une place à sa part. La jeune femme qu'il épouse, dont plus d'une sera jalouse, s'appelle Hermance de Lisieux. Par un prélat d'Araucanie, notre union sera bénie. Je vous l'apprends, non sans orgueil, pour annoncer cet hyménée. Les cloches toute la journée carillonneront sans sursoir. On sonnera jusqu'à la brune, près
même pendant le clair de lune, car je me marierai. Chapelle de mon vieux manoir qui s'appelle le château de Semblain-sous-Bois, qu'on échangera l'alliance, tout symbole de confiance, le 20e jour de ce mois, dans la salle du connétable, grand souper par petite table, bal, cotillon, etc. Nous aurons des violonistes, des harpistes, des pianistes et les chanteurs de l'opéra. Après, c'est le mystère sur lequel il vaut mieux se taire. J'ai dit, je crois l'essentiel, et mon cœur ingénu et tendre n'a plus désormais qu'à attendre la bénédiction. En attendant ce doux moment, j'ai l'honneur de vous faire part du prochain mariage du vicomte Semblain Edgar, seigneur de haut lignage, dont les aïeux au Moyen-Âge se sont fait une place.
Jean Giraudeau dans La Petite Fonctionnaire de Messager, enregistré en 1955 par l'Orchestre Lyrique de la Radiodiffusion Française sous la direction de Marcel Cariven. Et pour tout savoir sur Messager, je vous recommande aussi André Messager, Le Passeur de Siècles, un livre de Christophe Mirambeau qui vient de paraître chez Actes Sud. On va se quitter avec à nouveau Yvette Horner, l'émission que j'avais enregistrée avec elle en 2007, au cours de laquelle je lui avais notamment demandé de m'expliquer pourquoi et comment sa mère l'avait poussée vers l'accordéon plutôt que vers le piano qui avait été son premier instrument.
Elle m'a dit, que veux-tu faire? Bon, piano, bon, tu vas faire bien sûr des concerts, et puis tu donneras des leçons, ou je ne sais pas, surtout peut-être des leçons. Ouais. Alors donc, je préfère à ce moment-là, non, tu auras, je vous dis les termes qu'elle a employés, hein. Ouais. Tu auras une étoile qui brillera sur ta tête en tant qu'accordéoniste, et il faut que tu travailles l'accordéon. Alors donc, moi, étant donné que j'étais très, très disciplinée,
ouais.
Et ben voilà.
Mais en même temps, vous avez été un peu malheureuse de passer,
oui,
à l'accordéon.
J'ai, hein, été malheureuse. Et puis un beau jour, j'ai entendu un nommé De Prince,
oui,
à la radio jouer un morceau classique. Et je me suis dit, une ouverture d'opéra.
Ah oui.
Et je me suis dit, ah, mais à l'accordéon, on peut faire de jolies choses. Donc, c'est un instrument comme les autres, un instrument noble. Un instrument à part entière dont il n'y a pas de raison, je peux le travailler. Et là, je me suis mise à travailler l'accordéon, mais disons...
Classique.
Que des morceaux d'ouverture d'opéra, des morceaux classiques, etc.
Ouais. Yeah. C'est grâce donc au grand Adolphe De Prince, qui était un des maîtres de l'accordéon,
voilà,
que vous avez finalement accepté.
Voilà, j'ai accepté. Voilà.
Cette évolution. Et donc, oui, vous avez travaillé l'accordéon classique. D'ailleurs, je crois que votre père, au départ, il n'était pas question dans son esprit que vous alliez jamais jouer dans un bal musette. Hein.
Ah oui, là, d'ailleurs, il a dit, bon, ah, je ne supporterai pas que ma fille... Bon, alors tu joues du classique, c'est parfait, me dit, tu peux continuer, là, je ne suis pas contre, mais tu irais jouer dans un bal, je ne supporterai pas ça. Ah, oh, ça, vous savez, il s'adresse à une personne, il lui dit, je couperai les jambes de ma fille, si c'était ça.
Et on parlait des femmes accordéonistes. Moi, je me souviens de quelques disques. Par exemple, il y a une femme qui s'appelait Simone Bultio avant, oui, la guerre. Il y en a eu quelques-unes quand même. Hein.
Et Simone Bultio, qui était justement une nièce de Prince et qui jouait très bien.
Ah oui.
D'ailleurs, oui, oui, oui. Donc,
c'était un peu des exceptions, quoi, ces femmes,
oui,
qui faisaient.
Puis il y en avait deux autres ou trois, mais pas énormément, hein, bien sûr. Est-ce que maintenant il y a énormément de jeunes, ouais, dans toutes les villes, presque toutes, il y a un professeur d'accordéon.
Oui.
Puis maintenant il est dans le conservatoire.
Alors, on va peut-être revenir un petit peu au piano un instant. Vous n'avez jamais cessé de faire du piano, vous, pour votre plaisir, hein ?
Non, je fais toujours du piano. Le matin, je fais du piano, ainsi que mon instrument. Je fais ma toilette des doigts, ce que j'appelle ma toilette des doigts.
Grâce à Monsieur Hanon, c'est ça ?
Alors,
que tous les pianistes connaissent.
Ma toilette des doigts consiste à faire des exercices très difficiles. Il ne faut pas jouer du facile, sinon ça ne sert à rien, on perd du temps. Hein. Des choses difficiles pour garder un certain niveau, afin de jouer des œuvres d'une certaine difficulté, même d'une grande difficulté, je dirais. Alors, c'est la toilette des doigts, ça c'est important, voilà.
Et alors là, bah, écoutez, on va en avoir tout de suite la preuve, parce qu'on vous retrouve carrément, c'est vraiment de la haute virtuosité, dans une étude de concert de Liszt que vous avez enregistrée vous-même donc, au piano, c'est la Ronde des Lutins. Yvette Horner en 1988 dans un disque Erato avec la Ronde des Lutins de Franz Liszt. Et puis, vous pouvez retrouver notre entretien intégral sur le site de France Musique en tapant les mots-clés France Musique, Yvette Horner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Michel Bernstein et Serge Corbert qui nous raconteront les cabarets de la Contrescarpe à la fin des années 50. Voilà. Bon week-end à tous sur France Musique. France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.